Voix Nue. Toute cette semaine, Delphine Jaffé rencontre Eri De Luca. Ce soir, Monte Didio.
Eri De Luca, bonsoir. Vous êtes né en 1950, vous êtes écrivain, poète, traducteur. Vous êtes également un alpiniste chevronné. Vous êtes né à Naples, une ville qui traverse nombre de vos textes et qui constitue peut-être l'un des personnages centraux de votre œuvre. Vous êtes né donc en 1950 dans l'immédiate après-guerre et votre famille a été durement touchée par la guerre. Juste après la guerre, elle est ruinée et vous dites que vous avez été contaminé par l'histoire qui a précédé votre naissance. De quelle manière la guerre a-t-elle touché votre famille et donc le souvenir de cette guerre si récente a imprégné votre enfance, votre mère, votre père ?
La guerre a touché les pauvres biens de mes parents. La maison de ma mère et la maison de mon père ont été bombardées et détruites. Donc c'était le 43 et Naples a été la ville la plus bombardée d'Italie. Donc c'était dans l'ordre des choses que se produisaient ces dégâts. Et la... L'après-guerre a été un long effort de reconstruction de leur part. Pour moi, c'était les ruines qui étaient encore dans la ville et les histoires que je pouvais écouter, dites par les gens qui étaient venus dans la moitié du siècle où je n'étais pas encore là. Ça veut dire que c'était l'histoire qu'il se racontait pour se détacher de ces histoires, pour se soulager de ces histoires, mais ce n'était pas fait pour être écouté par les enfants, donc nous étions mis à l'écart. Sinon, ces histoires auraient été censurées directement dans le langage. Mais le fait qu'on habitait dans une ville... acoustiquement pas isolable, faisait passer ces histoires directement à travers les murs. Les murs de Naples sont faits de touffes, que c'est un matériel qui ne veut pas faire le métier des murs, que c'est de séparer. Les touffes mettent en contact une chambre avec l'autre, un appartement avec l'autre. À travers Naples, nous sommes forcés à connaître les affaires de tout le monde, parce que, par intérêt personnel, par curiosité, mais parce qu'il y a ce passage acoustique qui ne cesse jamais, c'est insomniaque la ville. Donc, ces histoires, je les écoutais à travers le filtre des murs. Et à travers le filtre du passé.
Votre père a été chasseur alpin pendant la guerre. Est-ce qu'il vous racontait son expérience de la guerre, ses regrets peut-être aussi
Non. Non, il était très silencieux sur son expérience. J'ai deviné quelque chose. Il a fait la guerre sur le front oriental, en Grèce. Et... il y a une chanson des alpins, des chasseurs alpins, qu'il nous a appris, qui disait que sur le mont de la Grèce, il y a la Voyoussa, que c'est un fleuve. Et ce fleuve était rouge par le sang des alpins, des soldats. Et c'était une chanson qu'on apprenait, on la chantait ensemble. Et après, à côté, il disait, mais il était bien Grèce, les truites de la Voyoussa. C'était une chose qui était complètement à part de la... Aujourd'hui, on peut dire le même, des poissons de la Méditerranée sont très bien engraissés par le corps des migrateurs, les poissons de la Méditerranée.
Cet héritage de la guerre dont vous héritez malgré vous, il y a aussi l'héritage américain qui est le prénom qu'on vous attribue, prénom donc américain... puisque votre grand-mère paternelle était américaine. Cet héritage américain, cette Amérique, est-ce que c'est quelque chose qui a une importance dans votre enfance, par la voix de votre père également? Est-ce que c'était pour votre père un rêve, l'Amérique? Et de quelle manière, vous, cet héritage américain vous a pesé ou non?
Mon père avait un sentiment d'être plutôt américain. Une petite majorité américaine et une petite minorité napolitaine. On ne parlait jamais d'être italien chez nous, américain ou napolitain. Et donc c'est pour ça qu'il s'était offert volontaire pour les chasseurs alpins, parce qu'il savait que la guerre se ferait sur le front oriental et donc qu'il n'aurait jamais pu rencontrer ou se battre contre les Américains. Il était... Après la guerre, il essayait d'aller en Amérique. C'était difficile pour les Italiens d'aller en Amérique parce que nous étions encore des ennemis, des vaincus. Et donc c'était très difficile d'avoir le visa pour les États-Unis. Mais finalement, il a réussi à l'avoir. Il est resté là presque un an en essayant de faire venir. Il a trouvé du travail, il a essayé de faire venir la famille.
Et vous aviez quel âge?
Le joindre, je n'avais aucun âge. J'étais un petit enfant de 2 ans, 3 ans. Et c'est ma mère qui avait décidé de ne pas quitter Naples. Je dois mon nom au nom de mon oncle, qui s'appelait Harry, avec les H, les Y, les Y. Et j'ai subi ce prénom à Naples qui était difficile à expliquer tous les moments, comme c'était comment. Et donc, quand j'ai eu l'âge de raison, je l'ai simplifié comme maintenant. Mais en plus, il y avait mon père était amoureux de l'Amérique. Après la guerre, il pouvait se remplir la bibliothèque des livres de littérature américaine qui s'était interdit pendant le fascisme. Et donc de musique, c'est lui qui m'a offert pour la première fois le disque de Bob Dylan. Donc mon père était bien amoureux de l'Amérique. Moi, beaucoup moins. Parce que l'Amérique était aussi la présence des milliers de marins américains à Naples. Naples était la capitale de l'OTAN, de la Méditerranée. Donc il y avait milliers et milliers de soldats, de marins qui descendaient. Il venait de purger à Naples leur abstinence alcoolique et sexuelle. Donc Naples était un immense réservoir d'offres pour ce genre de clients. Et donc c'était une ville aussi complètement offerte aux Américains. S'il arrivait qu'ils commettaient des crimes sur le sol napolitain, ils répondaient à la magistrature américaine. Non à la magistrature italienne. Naples était un enclave américaine. Appartenait à l'Italie par géographie, mais était une ville soumise aux Américains. Comme ça arrivait à des autres villes comme Saigon ou Manila. C'était le sud du monde qui se manifestait comme ça, dans certains lieux comme Napoli. Et donc je ressentais cette présence de personnes qui étaient semblables physiquement à moi. Donc, j'étais semblable à eux. Physiquement, à 16 ans, à 17 ans, j'étais un Américain. Physiquement un Américain. Donc, j'étais expulsé, j'étais déjà un étranger chez moi, à Naples.
Vous dites, Eri de Luca, que votre père aussi s'est toujours senti en situation d'exil, un exil sans voyage, justement, comme exilé de l'Amérique. Alors, il ne sentait pas italien, mais en revanche, il voulait que vous appreniez, vous et votre sœur, l'italien, qui était une sorte de manière justement de sortir de cette enclave napolitaine par la langue italienne.
Mais il voulait nous apprendre cette deuxième langue. Vous savez, en Italie, l'italien, c'était une langue récente. Tout le monde parlait les nombreux dialectes qui sont très différents l'un de l'autre. Au point que dans l'armée, il y avait un traducteur des dialectes. Il traduisait les dialectes en italien parce qu'il ne comprenait même pas les ordres en italien. Donc, c'était une question Je suis né en napolitain. J'ai grandi en napolitain, je sais, napolitain c'est ma langue maternelle. C'est la langue que je parle quand je suis seul, quand je parle avec moi-même. Quand je suis fâché contre moi, je m'insulte en napolitain. Parce que l'italien ne me fait rien. L'italien n'est capable de m'atteindre. C'est comme si quelqu'un m'insulte en italien, c'est comme si quelqu'un qui tire une pierre contre mon ombre. Je suis complètement invulnérable en italien. Mais le napolitain, oui, cette langue de la ville, cette langue du vacarme, de la pression, de l'urgence, de la densité de la ville de Naples, densité habitative la plus haute d'Europe. Et l'italien, la langue de mon père, qu'il prétendait qu'on parlait avec lui à la maison, à la table, c'était une langue opposée, c'était une langue calme, paisible, on peut prononcer à voix basse, arriver à être complètement muette, cette langue italienne dans les livres de mon père. Donc c'était la langue deuxième, la langue du deuxième temps. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Pour moi, la vie arrive toujours en napolitain. Mes réactions au moment sont napolitaines.
Encore aujourd'hui,
c'est toujours comme ça. Mais après, je peux écrire en italien. L'italien, c'est le deuxième temps d'une expérience de ce qui m'arrive.
Ça permet de mettre une distance. Et
c'est une distance. Une distance qui a toute la lenteur et la longueur des syllabes italiennes. À Naples, vous savez, nous avons le verbe le plus court au monde. Le verbe aller, chez nous, on dit i. C'est le plus court possible. S'il faut aller, il faut i. Tout de suite.
Le napolitain, c'est aussi les chansons napolitaines, c'est votre mère qui vous parlait beaucoup en napolitain. C'est, pour vous, le napolitain, c'est aussi raccroché à la figure de votre mère ?
Si, c'est ma langue mère, c'est la langue que j'ai parlé avec ma mère parce qu'elle a vécu avec moi dans les dernières années de sa vie. Donc, nous parlions napolitain, c'est ma langue mère. Et ma langue plus... la langue que je chante, qu'elle m'a appris à chanter. Parce que je chantais un peu fou dans l'enfance. Elle prétendait que pour elle c'était impossible, c'était insupportable le fait que je chantais un peu fou. Alors elle m'a forcé, lui, à rejoindre la justesse du ton.
Elle vous entraînait ?
Si, elle a prétendu que c'était obligatoire. Arriver à chanter.
Éric De Luca, la figure maternelle traverse beaucoup de vos textes. Vous avez consacré beaucoup de vos textes à la figure de votre mère. Et pendant cette période d'enfance où votre famille était ruinée, il y avait cette amertume de votre mère, cette manière qu'elle avait de vous parler, de vous raconter, de décrire en fait ces sentiments peut-être de frustration.
Elle racontait ce qui se passait autour d'elle. Et donc, c'était pas... J'étais avec elle, donc elle faisait semblable de s'adresser à moi, mais elle s'adressait à soi-même. J'étais le prétexte pour le dire à haute voix. Donc, c'était... J'écoutais sa voix, qui me racontait les choses, les mal du monde, les enfants qui mouraient parce qu'il y avait la plus haute mortalité infantile d'Europe à Naples. Ou les enfants qui allaient travailler à 5 ans, 6 ans. Donc, les choses qui étaient dans la rue. Et ces choses, à travers la voix de ma mère, avaient la possibilité dans moi de se encharner. Donc, je pouvais ressentir physiquement les choses qu'elle disait. Elle ne savait pas que... Avec sa voix, elle est capable d'allumer mon système nerveux. Mais c'était comme ça, elle était très efficace. Et ça m'arrive avec les voix des femmes, pas avec les voix des hommes.
Vous venez de parler, Iridulka, de la voix de votre mère, de la voix des femmes, et en même temps, il y a ce silence dans votre enfance, le silence de la maison, par opposition au bruit et aux cris du quartier de Naples dans lequel vous vivez. Vous avez tout à l'heure employé le mot muet. Comme si, est-ce que vous diriez que votre enfance a été en quelque sorte une enfance muette ou avec une sorte de chape de silence autour de vous?
Si, c'était comme ça. C'était une ville très bruyante, comme je disais avant. Donc, on se défendait de ces rumeurs en parlant à voix basse entre nous, mais je suis grandi dans une petite chambre remplie de livres. Et donc, c'était la chambre qui avait le meilleur isolement acoustique de la maison, mais aussi de la ville, je crois, parce que c'était le bruit s'arrêtait contre les murs de la, les murs et la, et l'épaisseur de la, du papier des livres. Donc, j'ai aimé ce matériel. C'était bien fait pour moi, ce matériel, parce qu'elle me permettait de m'isoler. Avant même de savoir que lire, c'est un magnifique outil d'isolement, les livres étaient physiquement un bon isolement acoustique, même thermique. C'était aussi un peu la chambre un peu plus chaude de la maison. Parce que chez nous, à l'époque, on n'avait pas des chauffages dans les maisons. Il fallait passer février. Février, c'était chez nous une espèce de maladie, c'était une épidémie. À février, on mourait. Mouraient les vieux, mouraient les enfants, les plus faibles mouraient de la fièvre de février. C'était l'épidémie de février. Mais quand on avait surmonté février, on avait surmonté l'année.
Donc cette chambre de papier qui vous protège, ce sont les livres de votre père qui était un grand lecteur, enfin votre mère aussi était une grande lectrice. Et donc votre père, d'une certaine manière, vous transmet cette bibliothèque. Mais est-ce que vous avez des échanges avec lui sur les livres? Est-ce qu'il vous conseille certains auteurs? Est-ce que après vous en parlez?
Non, il me donnait accès libre à tous les livres. Et le rassemble à un porc-copain. Le porc-copain, c'est un animal qui fait manger à ses fils toute espèce de nourriture, même la pire, même du poison. Et avec ça, le porc-copain transmet une force de immunitaire. Ils sont très résistants aux poisons, les porcs-copains. Et c'était passé le même pour moi. J'ai lu toute la bibliothèque de mon père. Je me suis empoisonné avec toutes les histoires de la guerre, exactement. Les histoires de la guerre de mon père, parce que mon père se remplissait de ces histoires parce qu'il voulait connaître ce qui s'était passé. Son temps, il n'avait pas compris. Ça arrive souvent aux témoins de ne comprendre rien du tout de ce qui se passe. Parce que le témoin, ce n'est pas un spectateur qui se présente officiellement, ça se met assis et regarde le spectacle, en savant que s'agit d'un spectacle. Le témoin, c'est quelqu'un qui est pris tout à coup, sans savoir, sans se rendre compte, il est pris dans un piège historique, dans un accident, et il se défend, et ses sens, ce sont des sens qui le défendent, ne sont pas là pour enregistrer l'événement, sont pour défendre la personne. Et donc, le témoin est celui qui comprend mal les événements. Alors, il avait besoin de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Donc ces livres sur la Deuxième Guerre mondiale étaient des livres empoisonnés pour moi. C'était un poison qui me rendait part d'une tragédie et pas d'un événement du passé. Il me causait des réactions sentimentales, de compassion, de colère, même de honte. J'ai appris ces sentiments à Naples, exactement. Je suis mon système émotionnel est un système qui s'est formé sur ces sentiments à Naples et sur les livres sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Vous dites, Terry Dulka, que Naples a été une cause pour vous.
Moi, j'étais un de ses effets.
Au sortir de l'enfance, Terry Dulka, votre situation change. C'est-à-dire que vous avez davantage de fortune et vous allez déménager dans une maison plus confortable, dans un autre quartier, etc. Comment est-ce que vous avez vécu à ce moment-là ce bouleversement, puisque c'était véritablement un bouleversement?
C'était la perte d'une mesure. D'une mesure, on était dans un petit coin, donc on avait toute une adaptation à l'espace, au peu d'espace, et à une adaptation au fait que si on ouvrait la fenêtre, on voyait à la longue distance de 2 mètres face à une autre fenêtre qui était de l'autre côté de la rue, de la ruelle. Donc qu'il n'y avait pas de regard, on ne voyait rien du tout. Même l'année était bouchonnée par les odeurs de l'ambiance. Donc tout à coup, il y avait de l'espace. Il y avait une fenêtre qui regardait le golfo. On voyait loin Sorrento, Capri. Il y avait de l'espace dans la maison. J'avais une chambre pour moi.
Sans les livres, cette fois, ou vous avez...
Toujours avec les livres, mais avec une relation entre l'espace des livres et mon espace qui était plus favorable pour moi. Donc c'était un déplacement qui améliorait la condition, mais aussi me dépaisait. Je ne me trouvais pas bien dans cette ampleur de la condition. J'étais plus adapté à la mesure étroite.
Mais l'atmosphère qui régnait dans votre famille devait être un peu plus décontractée, peut-être un peu plus légère du fait de cette nouvelle fortune ou de ce changement qui pour eux représentait justement sortir du quartier pauvre de
Naples. Si, pour eux c'était mieux, c'était toujours mieux, mais c'était comme si c'était comme quand on ouvre une main, non? Mm-hmm. Il y avait d'abord on était dans un point et après c'est ouvert la main et les doigts se touchaient pas, mm-hmm. se touchaient plus. On était chacun pour soi dans cet espace.
Est-ce que c'est pour ça que ce sentiment peut-être de solitude, alors à ce moment-là, que vous avez pu éprouver dans votre enfance, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez mis en scène dans certains de vos textes des figures d'orphelins, des figures d'enfants très solitaires qui perdent l'un de leurs parents? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette figure de l'orphelin?
L'indépendance. N'avoir des maîtres ni des personnes qui se prennent soin de lui et de ses... Et donc c'était une espèce de liberté. Il y avait une plaisanterie, non, qu'on faisait avec les enfants. Tu n'es pas notre fils, tu es le fils qu'on a trouvé dans la... Et ça me plaisait, mais cette plaisanterie. Ma sœur se désespérait quand on faisait cette plaisanterie. Pour moi, ça m'expliquait quelque chose de moi. Oui, je n'appartiens pas à cette famille. J'appartiens à toute une autre. Je peux inventer la personne, les personnes qui m'ont généré, qui m'ont fait naître. J'avais une liberté d'invention. je pouvais être fils de n'importe qui. Donc c'était un sentiment comme ça qui m'a... Mais je n'ai pas parlé souvent de... Il y a une histoire où j'ai lu un orphelin. Il y a une histoire de Naples qui est un orphelin, ça s'appelle le jour avant le bonheur.
Est-ce que ça permet d'échapper au sentiment d'appartenance ou justement de créer un sentiment d'appartenance?
Où l'appartenance est celle d'appartenir à la ville, et pas à une famille, mais à une entière géographie et à l'histoire de cette géographie.
Davantage qu'à l'histoire des personnes et des... Donc des parents, des ascendants, en fait.
Si. Cet orphelin se fait raconter les histoires, l'histoire de la ville, l'histoire de l'insurrection napolitaine contre les Allemands. Donc il reçoit cet héritage. C'est ça, c'est son héritage.
C'est ça, c'est le personnage du jour avant le bonheur, donc un de vos textes. Et en même temps, corrélé à cette figure de l'orphelin, il y a la figure de l'initiateur aussi.
Si, il faut quelqu'un qui introduit la personne au monde. Je viens de terminer de lire Le premier homme de Camus. Là, il raconte son adolescence. Et si je l'avais lu avant, j'aurais cru d'avoir été sur son sillon dans cette histoire. Je l'ai lu tout simplement maintenant. Et là, il raconte la nécessité, la possibilité d'avoir eu un maître qui, dans la première classe, lui a adressé, lui a donné une adresse et une attention particulière pour la... pour son intelligence et sa recherche. Donc si, il faut avoir la chance de trouver, au lieu des adultes officiels, des adultes occasionnels qui font le travail de passeur.
Et vous, dans votre enfance, il y a eu quelqu'un comme ça qui a joué ce rôle de passeur, d'initiateur?
Non, non. Non, j'ai eu des parents très présents. Donc, j'avais pas besoin de chercher ailleurs. Ce que j'ai cherché ailleurs ont été dans ma vie des frères. Parce que j'ai eu seulement une sœur, alors parfois, je suis allé chercher des frères.
Merci beaucoup, Eri De Luca, et à demain soir.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Delphine Jaffet avec Eri De Luca. À Voynet, attaché d'émission Claire Poinsignon. Réalisation Christine Digère. Prise de son Arthur Gerbeau. Coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.